Recommandation numéro 6, définir et mettre en œuvre une politique de préservation des patrimoines naturels en priorité les plus sensibles. Donc, article 16, faire du PNR des Préalpes un observatoire des patrimoines naturels et du changement climatique. Donc, dans les dires de l'État, quand on rédige un avant-projet de charte, le projet final, l'État nous mentionne des éléments importants qu'il souhaite voir figurer donc, dans notre projet de charte. Et notamment, tout ce qui est changement climatique en fait partie. Donc, c'est une nouveauté par rapport aux parcs qui sont déjà créés. Donc, les parcs en devenir, eux, doivent vraiment s'intéresser à cette thématique. Et au niveau du territoire des Préalpes d'Azur, il y a beaucoup d'espèces qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là, qu'une aire de répartition géographique mondiale très limitée. Il y en a certaines qui n'existent au monde que dans le périmètre des Préalpes d'Azur. Et donc, comme ces espèces ont une aire de répartition très, très réduite, elles sont très sensibles à tout changement, et notamment au changement climatique. Donc c'est vrai que le PNR serait un bon territoire, un bon terrain d'étude pour tout ce qui est étude du changement climatique.
Alors on a quand même du Natura 2000 d'une manière significative sur le territoire.
Il y a actuellement...
Il y a des places justement pour protéger ces plantes ou...
Alors, Natura 2000 va s'intéresser donc à certains listes qui ont été établies au niveau européen. Et après, il y a des espèces, par exemple, du côté de Saint-Rémy-de-Thiers, il existe un petit géranium dont la seule station au monde se trouve à Saint-Vallier. Elle a toujours été, elle a toujours existé, elle continue à exister hein, par l'activité pastorale qu'il y a dans ce secteur. Donc, ça ne remet pas du tout en cause quoi que ce soit. Mais justement, bon, ben, c'est, cette espèce est très localisée, est intégrée dans une enveloppe Natura 2000. Il n'y a pas de protection particulière Natura 2000 pour cette espèce. Natura 2000 va s'intéresser plus particulièrement, par exemple, aux espèces de la directive Habitat ou de la directive Oiseau, mais pas à ce type d'espèces qui sont qui parfois ne font pas l'objet de mesures de protection particulières. Donc, il y a comme ça des espèces qui ne sont pas forcément protégées, mais qui ont un intérêt vraiment particulier et pour lequel, je pense, le territoire a une responsabilité dans la préservation.
Là, ce sera un éclairage qu'on aura, me semble-t-il, à travers le conseil scientifique aussi.
Oui, tout à fait.
Parce que là aussi, c'est une spécificité de botaniste ou d'entomologiste qui nous fera rechercher pour ne pas dire de bêtises. Et toi, tu es déjà bien spécialisé là-dedans, mais je pense qu'on aura des allers-retours avec le conseil scientifique intéressant.
Oui, tout à fait. Ce qui veut dire, c'est que le conseil scientifique devra s'enrichir de nouveaux partenaires, quoi. Parce que sur le changement climatique, c'est pas seulement un botaniste ou un entomologiste.
Mais pas s'enrichir, Pierre, il n'existe pas encore. Hein.
Non, mais. Oui, mais ça fait rien. Mais, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. C'est, on parlait de botaniste, tout ça. C'était peut-être. Les conseils scientifiques, hier, c'était suffisant, mais peut-être que demain, dans les conseils scientifiques, il faudra peut-être qu'on ait des géographes spécialisés au niveau climat, d'autres géographes spécialisés dans d'autres domaines. Je veux dire, c'est par rapport à cette idée-là, quoi. Je pense que le conseil scientifique devra s'ouvrir sur des perspectives qui sont plus importantes aujourd'hui que hier, quoi. Ou sur des problématiques qui, hier, étaient marginales.
C'est exactement ce que je pense proposer.
C'est une profonde mutation, il est en plein dedans, ouais. Il faut qu'on tienne compte de ça. Et ça va très vite, moi. Vous avez dit que je connais aussi le travail fait par les climatologues. 2500, je serai une série de ils correspondent à 200 pays. Et chaque fois qu'ils se réunissent, ils disent ce qu'on vous a dit l'année dernière, ben, on s'est trompé, c'est pire parce que ça ira plus vite que prévu. Et que le climat va changer de doucement. Nous, on va arriver dans la France du Sud, on aura le climat de sans doute du Maroc, c'est à peu près ça. Et ça va entraîner aussi, ça, il faut y penser. On parle beaucoup des immigrés. Et ça va entraîner des migrations climatiques, d'ailleurs des immigrés qui seront
par le climat climatique.
La Suède, c'est déjà pas mal. Ils savent qu'ils vont monter vers le nord, ils ont déjà dit, mais attention, il n'y aura pas tellement le danger des immigrés qui cherchent du travail, il y aura aussi le danger de ceux qui ne feront plus chez eux. S'il y a un profond bouleversement, et ça va plus vite que ce qu'on pensait. Les Maldives savent qu'ils vont disparaître, ce sont des îles qui sont très très plates. Et avec chaque fois, ils nous disent qu'il y aura quelques centimètres de plus que ce qu'on vous a dit pour l'eau. Et ça suffira pour faire disparaître les Maldives. Le chef d'État, vous l'avez dit aussi, mais je sais que mon pays va disparaître. Il faut que je passe à l'air. Comme ça, on se dit que les magies vont disparaître. Voilà, mais c'est vrai que vous êtes un vrai occupé. Et peut-être qu'avec certaines plantes, on s'aperçoit qu'il y a des changements aussi. Il n'y a pas que les moustiques tigres qui arrivent aussi.
Ils vont faire des polders, ils vont faire des polders et des.
Ah, en Hollande.
Non, mais dans les Maldives, hein.
Ah oui, les polders. Comme la Hollande, côté des murs. Mais, oui, ça coûte.
Les matériaux, les prendront.
Bon.
Autre point, donc, assurer la mise en œuvre de mesures de protection adéquates, notamment en faveur des milieux naturels et des espèces les plus sensibles. Donc là, l'idée, c'est sur le territoire, notamment par exemple dans le cas de la BTA, il y a des secteurs qui ont été identifiés comme remarquables. Également, souvent, dans ces secteurs, il y a quand même des activités, notamment touristiques, qui se développent. Donc l'idée, ça va être déjà mentionné donc, au plan du parc, identifier les secteurs donc, où vous avez des espèces, soit de flore, milieu naturel remarquable, et où il y a une pression particulière sur le milieu liée à certaines activités qui peuvent avoir un impact. Et c'est ces secteurs qu'on parle, donc de secteurs sensibles, et dont on parle ici dans cet article. Donc, ce n'est pas des secteurs où on va. Souvent, c'est des secteurs naturels qui sont aujourd'hui peu urbanisés. Je pense par exemple aux crêtes, le crête de l'Oudière, c'est pas là où on va urbaniser ou quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de secteurs sensibles qu'au niveau activité, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher. Au niveau urbanisation ou quoi, c'est au contraire des secteurs où il y a des problématiques particulières qui ont été identifiées et on va tâcher de travailler de manière concertée à faire en sorte que ces secteurs puissent à la fois préserver des activités et à la fois préserver des milieux qui existent. Dernier article, connaître et valoriser les patrimoines géologiques des Préalpes. On est tous conscients que sur ce territoire, il y a quand même un paysage particulier qui est lié à une géologie particulière. C'est très lisible, tout le monde, même si on ne s'y connaît pas en géologie, on identifie très facilement une crue, des paysages karstiques. Donc l'idée, c'est de valoriser ce patrimoine géologique qui aujourd'hui apparaît quand même comme méconnu et qui n'est pas du tout mis en valeur. Orientation numéro 7, développer une stratégie ambitieuse en faveur du patrimoine culturel et de l'expression culturelle des habitants. Donc comment y arriver? Donc la première idée, c'est de consolider la connaissance des patrimoines culturels et archéologiques des Préalpes d'Azur pour définir un projet de conservation adapté. Donc sur le territoire, on s'est aperçu lors notamment de la sous-commission archéologie patrimoine, qui avait un patrimoine culturel vraiment très intéressant, très important. Il y a certains patrimoines qui sont connus, mais il y a encore beaucoup à étudier. Et l'idée, ça serait voilà, de valoriser ce patrimoine. Pourquoi pas, après, une fois qu'on aura bien identifié le patrimoine dans les différents secteurs, pourquoi pas faire, par exemple, des circuits itinérants pour que les gens puissent découvrir le patrimoine de chaque village. Ça pourrait être sur 1, 2, 3 jours, un circuit qui pourrait être mis par exemple, qui pourrait être valorisé auprès des visiteurs, auprès des touristes, pour que les gens puissent circuler de village en village à la découverte du patrimoine culturel et bien entendu par là même à la découverte des paysages, à la découverte de tout ce que peut offrir chaque village. Tout ça, c'est une idée, un exemple que je vous donne. Article 20, développer les actions de médiation des patrimoines culturels et la participation des habitants aux actions culturelles. Donc là, c'est de pouvoir vraiment permettre, donc ça c'est M. Fabre qui lors des différentes réunions, c'est de pouvoir ouvrir le territoire à la culture de demain et permettre aux habitants d'avoir un meilleur accès à la culture. Donc on arrive à l'axe 3 pour un aménagement renouvelé et durable de l'espace. Donc la première orientation de cet axe, c'est créer les conditions favorables pour un développement équilibré du territoire. Donc dans un premier temps, ça serait d'assurer une répartition territoriale équilibrée de l'emploi, et améliorer l'accessibilité des biens et services quotidiens, donc pour permettre aux gens de pouvoir continuer à vivre sur ce territoire, à y travailler et également avoir accès donc aux services. C'est vrai que lors des dernières réunions, il y a souvent la thématique au niveau de la poste, au niveau des distributeurs aussi de billets qui est ressortie, et c'est vrai qu'une idée, ben, ça pourrait, voilà, comment permettre le maintien donc de services au quotidien pour la population.
Vous avez fait quelques progrès au niveau médical, mais dans l'autre partie du parc naturel, ils sont désespérés parce qu'il n'y a plus de billets. Les gens qui sont un peu malades du cœur, ils ne peuvent plus habiter là. Ça se désertifie, surtout à cause de la santé pour les personnes âgées. Ça, c'est quand même plus sûr. Donc, ils ont un endroit agréable. Il suffirait qu'on aide un peu, ça finira par le faire, j'imagine, donner plus un tout vide, gagne moins d'argent chez vous, parce que sur le littoral, dans la mairie, j'en ai trois. Donc, il faut trouver une solution pour qu'ils aient envie de s'installer aussi dans vos pays. Vous avez presque résolu le problème. Mais dans certains secteurs, c'est dramatique.
C'est vrai que c'est une bonne façon d'appréhender cette problématique parce que il y avait à l'époque les médecins cantonaux et les infirmières cantonaux qui étaient aidés par le conseil général, et maintenant depuis plusieurs années c'est en voie d'extinction, c'est-à-dire que les derniers quand ils partiront, c'est-à-dire chez vous Auguste Pagès, Hélène Fabre et Christian Puig, et quand ils arrêteront, ils ne seront pas remplacés à ce type. Et heureusement que la maison médicale permet Jérôme Contestin et aux autres de venir s'installer et de compenser quelque part ce que ne leur donnera plus le Conseil général en termes d'aide à leur déplacement.
Là, vous êtes innovant, mais il faudra qu'on le marque, ça, c'est intéressant. Mais il faudrait qu'il fasse pareil dans le reste du parc.
Et oui, hein, parce que c'est un facteur de stabilisation de la population, on le sait, les populations anciennes, troisième âge, sont très attentives à la capacité à avoir rapidement des soins. Et même les jeunes, souvent quand ils demandent en termes de service, quand ils viennent assez rarement, c'est donc réglé, mais les questions, la santé, ça arrive en second, la scolarité des enfants. Où est-ce qu'on peut scolariser les enfants, vous pouvez regarder. Deux, où est-ce qu'on peut se faire soigner, les dents, un machin, etc. Voilà.
Oui, comme vous dites, sachant quand même que les États se désengagent pour le reconnaître. Par manque d'argent, mais d'un point de vue, on va aller à l'hôpital, l'enseignement, on va à la poste, GDF, GDF, tout ce que vous voulez. Il ne faudra plus attendre de miracles à part le GDF. On s'y a quelques crédits, quelques idées intelligentes, il faudrait l'appliquer.
Par contre, moi je vois dans l'article 21, là, c'est l'endroit où il faudra qu'on parle d'une manière importante du télétravail. Je pense que ça, c'est un des facteurs clés de cette recherche d'équilibre.
Pareil, inadmissible, avec la qualité de vie qui est dans nos pays, avec les donneurs d'ordre comme Sophie Antipolis, bientôt l'OIN, mais il y a aussi d'autres, le Carrosse ou autre, il y a des donneurs d'ordre importants, puis même sont très loin, hein, que le télétravail ne soit pas un malheur. Aux États-Unis, c'est 15% de la population, et pourquoi on n'est pas capable de faire pareil? Parce que d'avoir autour de nous les gens qu'on appelle ce qu'il y a à Sophie Antipolis, c'est une richesse extrême qui n'est pas utilisée. Reste un peu la liaison, est-ce que vous, ça s'est amélioré, la liaison, ou non?
Ben, certains endroits, oui. Il y a des endroits où, quand on est en limite de la capacité de transmission de France Télécom par le cuivre, et ben, il y a des endroits où ils sont juste à l'intervalle, avec un circuit d'un côté, un circuit de l'autre, et il y a des gros avancements.
C'est la première chose à faire.
Il y a des endroits où on est en train
de... Vous avez dans cette salle, je me rappelle, pour essayer de trouver une solution, Max... Tant qu'on n'aura pas testé les liaisons, mais là, il faut aller vite en informatique.
Ouais. Mais
on
aura des zones grises encore. Hein.
Mmh. Ouais. Mais en même temps, je pense que par rapport au télétravail, je pense qu'il faudrait qu'à travers le PNR, on se penche sur la question de l'organisation des gens qui vont travailler en télétravail. Quoi. Parce que le télétravail, suivant comment il est organisé, géré, quoi, ça devient un peu de l'esclavage. Quoi. Parce que pour gagner un salaire décent en télétravail, il faudra, je veux dire, il faut qu'il y ait... un cadre pour tout ça, quoi, et que les gens soient organisés, parce que il y a certains endroits, moi je connais des personnes qui travaillent en télétravail, je veux dire, bon, c'est vrai, elles travaillent chez elles dans un bon contexte, mais le nombre d'heures pour pouvoir sortir un salaire décent à la fin du mois, c'est pas évident non plus, quoi.
Mais c'est vrai que l'esclavage a raison, mais celui qui habite, on a parlé avec la juridique ici, qui habite à Saint-Thomas et qui va travailler tous les jours à Cannes, ça va être un type, il faut le faire. Hein.
Non, non, mais
ça,
je dis pas le temps faire.
Le mouvement pendulaire, quand je vais là, je suis en pays, et que j'arrive aux heures d'ouverture,
tu vas commencer au pays.
Je vais être à l'heure, je vais être à l'heure. Je ne sais pas si tu vas très vite, toi. On les reconnaît tout de suite. Ceux qui vont aux champignons par rapport à ceux qui vont travailler. La vitesse, là.
Donc, c'est pas possible. On aura effectivement un rôle à jouer dans ce type d'organisation. Et c'est vrai qu'il y aura une partie, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, il y a des emplois non qualifiés, il y a des emplois qui sont beaucoup plus, mais là, c'est sûr que dans le télétravail, il y aura du travail de l'antilo, et puis il y aura du travail plus, un peu plus élaboré, quoi.
C'est pas romantique, maintenant. C'est partout.
Et tu vois un garçon comme Jean-Marc Desgas, il fait presque tous les chiffres maintenant.
Il va au stade, dans un hôtel de la Croisette, tous les jours.
Alors, tous les jours, justement, il le fait avec...
Je passe un petit message, parce qu'il passe par la pénétrante. Comme la pénétrante sera bloquée par Ikea, il a peur, il dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Je lui donnais les chiffres des stockages, il a pris le ouais, c'est ma plus personnelle.
Au niveau du télétravail, il y a aussi une sensibilisation des gens, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas aussi... ils se disent, mais moi, travailler à la maison, je ne peux pas, il faut que je sois dans une structure. Et c'est vrai qu'il y aura aussi, je pense, une information de sensibilisation au niveau des gens. Parce qu'il y en a beaucoup qui, eux-mêmes, ne se sentent pas de s'intégrer dans cette manière de travailler. C'est comme quand on est à un bureau, des fois, vous êtes 8 heures devant votre ordinateur.
Il y a des gens qui organisent matériellement chez eux quelque chose de très différent, et c'est là qu'ils vont travailler. Et après, quand ils rentrent chez eux, et c'est chez eux.
Pour
pouvoir faire une pure morale, je ne sais pas. Effectivement, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais.
Je suis pas assez autonome ou assez organisée pour me dire, à 8h, je commence le travail, je fais mon travail, je finis à midi.
Ouais, ça s'apprend.
C'est une question d'organisation.
Ça s'apprend.
On pourra toujours faire des structures, disons, de bureautique pour travailler, adaptées au paysage. Les gens pourront aller travailler à proximité, mais
ils ont créé des
bureaux.
Vers Ugiténiel, ça a été un échec. Il y avait une aide du conseil général pour faire des centres de télétravail. Les maires ont dit, ça n'a pas marché.
On peut plus au travail.
Pourquoi
là, travailler à la maison, c'est vrai, c'est difficile.
Mais c'est
des structures.
C'est culturel, ça. Je pense que, à mon avis, c'est une formation des gens. Quoi. Ça s'apprend.
Les communes pour en créer.
On ne souhaite pas que tout le monde travaille dans les
travail.
Il y en a
un ou 2% de plus, ça me
l'arrache. Il y a une valeur ajoutée.
À l'article, toujours, le transport, c'est pareil. Le transport, maintenant, parce que, vous voyez, quand on va travailler en ville, quand il vous faut un parking, au prix où il coûte les parkings, j'ai vu que chez Ténier, ils ont mis un transport supplémentaire et les cars sont pleins. Ils vont travailler le matin à 6h30 et ils rentrent à 16h à Pugétainier. Ils vont travailler en ville. Hein.
Les cars sont
pleins. Ils sont pleins. Et le maire de Pugétainier m'a dit, je ne m'attendais pas, je pensais que le transport n'allait pas trop marcher. Maintenant, allez-vous, ils arrivent à Nice les trucs arrivent là, puis ils vont travailler en ville et le soir ils commencent. Je pense que le transport, dans quelques années, si on arrive à faire des liaisons Saint-Auban, Grasse, vous verrez que ça prendra parce que ça coûte trop cher au niveau de stationnement en ville. Et la personne, suivant les horaires, comme vous dites, avec le télétravail, je pense que si la personne commence à 8h30 et finit à 16h30 ou à 17h, hop, elle a son transport qui remonte à son devant et il va laisser sa voiture et prendre son transport.
Ça, c'est obligatoire.
Ça, c'est quelque chose qui va arriver. On a vu ça il y a 50 ans en arrière, quand il n'y avait pas de voiture, il y avait le car de Saint-Auban qui partait de Saint-Auban, il allait à Grasse, et vous avez le car de Saint-Auban qui allait à Pugiténier avec correspondance à Nice, et c'était toujours plein. À l'époque, il n'y avait pas les voitures. Aujourd'hui, les voitures, c'est moderne, mais on n'a rien pu se garer en ville. Je l'ai vu hier, j'ai voulu aller à Nice, même si c'est aberrant. le prix des parkings motifs. Et encore, les parkings, on n'arrive même pas à avoir des places. Ils sont complets, les parkings.
D'abord le train, c'est le train. Et le transport, terminé pour la voiture.
Ah oui, oui, moi je dis, le transport, ça, c'est quelque chose que dans notre secteur, c'est.
C'est pas bête, histoire d'un gare. Ah oui. Aux heures de faire le tour. Non, mais nous, à Serranon, on a trois chefs de famille jeunes. Qui, tous les matins, prennent le car pour descendre travailler sur place. Voilà, ils payent 1 euro pour aller, 1 euro pour revenir. Voilà.
C'est cet avantage que le Conseil général a mis. Moi, j'ai vu sur Puget-Aigné, j'ai observé.
On a eu l'abribus qui était abîmé par le vent, par la grosse tempête de vent noir. Et bien, tout de suite, ils sont venus réclamer en disant « Oh, on n'en a plus un. » Ah bon, moi, je ne savais pas qu'il y avait tant de gens qui étaient concernés par un abribus. Ben oui, c'est vrai que c'est la plus chère. Eh ouais, non, mais
ça prouve qu'il y a. Ça revient.
Ça revient.
Dans les personnes. Ils partent à 6h30, bon, il y a un car à 6h30, ils sont vachement contents, ils rentrent le coup à 16h30, 17h.
Je me suis rendu compte
qu'ils ont rajouté 2 euros, pas d'embouteillage, pas de parking.
Pas de frais.
Alors que le parking du car,
pas de gasoil pour un essai. Je vais à Marseille, je vais à la gare. 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 Je vais à la